L'intelligence. Alors, soyons intelligents. Pour connaître qui? Le véritable, avec un grand V. Qui c'est le véritable? C'est Jésus. Et nous sommes où? À côté du véritable? Dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie véritable et la vie éternelle. Voulez-vous d'une vie véritable? Hein? C'est ça votre problème? Vous cherchez la vie véritable? C'est votre problème? Problème de l'heure? C'est lui qui est la vie éternelle. Alors, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et ne pensez pas que les idoles sont ailleurs, coup, dans votre cœur. Mes idoles, c'est ce qu'on garde dans son cœur, c'est ce qu'on caresse. Alors, le vrai problème de l'heure, je vais seulement vous donner des pistes de réflexion, il nous reste seulement un tout petit quart d'heure. Hein. Le vrai problème de l'heure, qu'est-ce que nous avons vu, au fond? C'est que nous n'aimons pas de l'amour de Jésus. C'est tellement facile de dire « je t'aime de l'amour de Jésus, je t'aime de l'amour de Jésus ». Nous n'aimons pas de l'amour de Jésus. Le problème de l'heure, c'est de revenir à ce qui est essentiel. Et non plus à ce qui est partiel. Et alors j'avais à cœur, et je vous indique seulement ces passages, pour que vous puissiez appliquer vous-même les règles des quoi? Des quatre opérations, hein? L'addition, la soustraction, la multiplication, puis la division. Ben, je vais vous donner tous ces devoirs pour la maison, hein, quand vous rentrerez. Vous examinerez certains chapitres, et puis vous ferez des additions dans les chapitres, puis vous ferez des soustractions, et puis vous ferez des multiplications, puis vous ferez aussi les divisions qui sont nécessaires. Bien, prenons déjà dans le chapitre 2 des Philippiens. Si donc il y a quelques consolations en Christ, est-ce qu'il y en a des consolations en Christ? Mais additionnez, hein. Tout ce que vous pouvez avoir comme consolation en Christ, cherchez-les. S'il y a quelques soulagements dans l'amour, est-ce qu'il y a un soulagement dans l'amour? Vous voyez aussi additionner là, hein. Peut-être multiplier. Et s'il y a quelques communions d'esprit, est-ce qu'on peut avoir de la communion d'esprit? Et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde? Faites des additions. Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment. Puis qu'est-ce que vous allez additionner? Un même sentiment? Un même amour. Sentiment plus amour. Une même âme. Vous pouvez encore additionner. Une même pensée. Ne faites rien, alors là, soustraction, hein, ne faites rien par esprit de parti. Ça doit être soustrait de ma vie. L'esprit de parti, je soustrais. Ni par vaine gloire. Hein, l'orgueil, soustrait. Pour me montrer. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même, alors multipliez pour que les autres soient très grands à vos yeux. Et puis vous, tout bas. Les autres supérieurs à soi-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, enlevez tout ça, hein, soustraction, considérez aussi ceux des autres, multipliez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Essayez de les additionner. Vous ne trouvez pas que c'est une belle étude de faire ça? Vous ne direz pas après que vous n'êtes pas nourri à la maison. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Voyez cet exemple. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Voilà un chapitre que vous pouvez méditer. Alors, vous avez bien compris, je vous rappelle simplement les termes de notre thème, le vrai problème de l'heure. Nous avons vu en quelle heure nous sommes. Chapitre 13 des Romains, c'est l'heure de nous réveiller. Alors, appliquez au chapitre 13 des Romains les quatre règles fondamentales. Vous verrez ce que vous devez additionner, ce que vous devez soustraire, ce que vous devez multiplier et ce que vous devez peut-être diviser. Chapitre 13 des Romains. Il y a beaucoup de choses. C'est le chapitre qui était la conversion de Saint-Augustin. Et puis, on a parlé aussi du chapitre 2 de l'épître de Jean. Hein. C'est l'heure d'amputer. C'est l'heure de discerner. Alors, sachez faire votre division là. Ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu. Faites la séparation. Et puis, on a vu aussi dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Je te garderai de l'heure de l'épreuve. Et pour être gardé de l'heure de l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut? Garder la parole de sa passion. Alors, gardez cette parole. Que la parole du Christ habite avec, en vous avec abondance. Donc, multipliez cette parole dans votre propre vie. Car nous sommes à la dernière heure. Puis on a vu ce que c'était qu'un problème. C'est une question à résoudre, c'est une solution à trouver, c'est un résultat à obtenir. Alors, nous avons vu aussi ce que sont les faux problèmes, hein, parce qu'on veut s'occuper, nous, du vrai, le vrai problème de l'heure. Alors, abandonnez maintenant tous les faux problèmes. Et là, il faudrait avoir plus de temps, mais je vous donne seulement des pistes de réflexion. Hein. Eh bien, quels sont les faux problèmes? Par exemple, me faire du souci pour demain. Ça, c'est un faux problème. Hein? Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Alors, faites confiance au Seigneur. À chaque jour suffit sa peine. Ce qui arrivera demain, c'est un faux problème. Ne soyez pas angoissé au sujet du lendemain. Vivez aujourd'hui. Il vous a donné sa force aujourd'hui. Et c'est ça, à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur ne nous a pas promis de la force pour un mois à l'avance, pour une semaine à l'avance. Il nous a promis la force pour le jour, au jour le jour. Et alors vous arriverez à la fin de la semaine en disant, mais comment est-ce que j'ai pu traverser tout cela? Mais parce que vous avez été d'étape en étape. Tandis que si vous voyez tout ce qui pourrait vous arriver pendant la semaine, aujourd'hui, avec la force du jour, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes écrasé. On se charge de soucis qui ne seront peut-être pas là. Parce qu'ils ne seront pas là. Moi, j'étais stupide de me charger du souci, du poids même de mes valises. Parce que ça ne s'est pas donné comme ça. Alors donc, j'avais à remettre ça au Seigneur. Puis s'il y avait eu un problème, il l'aurait solutionné, il m'aurait donné la solution. Alors, pas de souci. Ça, c'est un faux problème, ce qui arrivera demain. Puis maintenant, un faux problème, c'est de savoir quand est-ce que le Seigneur va venir. Hein? Est-ce qu'on va mettre une date? Quand est-ce que j'ai à l'attendre? Aujourd'hui. Dans toutes les parties de cette journée, il peut venir. Un jour, il sera venu. Nous ne savons pas le jour, pas l'heure, donc ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. C'est un faux problème. Mais c'est à vous d'être aujourd'hui son témoin. vous serez témoin. Puis, il y a un faux problème. On dit, est-ce que vous croyez que ceux qui sont sauvés seront au petit nombre? Est-ce qu'il y aura plus de sauvés ou plus de perdus? Vous les connaissez, ces gens qui se posent des questions de ce genre? Ils les ont posées au Seigneur. Chapitre 13 de l'évangile de Luc. Seigneur, ceux qui sont sauvés sont-ils en petit nombre? Parce qu'on aime bien le petit nombre, nous autres. Au moins nous. Qu'est-ce que le Seigneur répond? Il ne répond pas. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ne vous occupez pas du nombre des sauvés, c'est moi qui sauve. Ce n'est pas vous. Et ce n'est pas vous qui dites qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Parce que comme je l'ai dit souvent, il y aura ces trois grandes surprises de l'autre côté. Hein. Vous les connaissez. La surprise de ne pas y trouver ceux qu'on y avait mis. La surprise qu'est-ce qu'on a dit? La surprise de trouver des gens dans le ciel que nous avions mis en enfer, qui sont sauvés. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer dans le dernier moment entre une âme et son Dieu. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour que quelqu'un regarde au Seigneur. Comme pour le serpent des reins, on regardait et on était sauvé. Alors ce n'est pas à nous à dire qui est sauvé. Parce qu'on met des gens en enfer et on ne le sait pas. Ils sont au ciel. Ou bien on met des gens au ciel et on ne sait pas qu'ils sont perdu, parce que ce n'est pas à nous à juger. Qu'est-ce qui juge? Qu'est-ce qui connaît les cœurs, le fond des cœurs? C'est Jésus. Mais la troisième surprise, alors la vraie, la plus grande, c'est laquelle? C'est de s'y trouver toi-même. Parce que quand je me connaîtrai comme j'ai été connu, je me dirais, ben, quand même, il a dû m'aimer drôlement. Je pensais qu'il m'aimait, mais maintenant que je me connais comme cela, que je sois sauvé, c'est vraiment la grâce des grâces. Là, j'entrerai sauvé par grâce. Là, tu m'attends au Saint-Paradis. J'avais 18 ans quand j'ai entendu cette parole. Là, me dis-tu, j'acquis ta place pour toi dans le paradis. Repos, repos près de Jésus. Peine et douleur ne seront plus. Oui, c'est ça. Alors, plus de faux problèmes. Hein. On ne va pas questionner sur la question du nombre des sauvés. Et puis, un autre problème. Le Seigneur nous dit, toi, je t'ai appelé à ceci. Toi, il va t'arriver ceci. Oui, mais Seigneur, à l'autre, qu'est-ce qui va y arriver? Vous connaissez ça? C'est dans le chapitre 21 de Jean. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est notre Pierre. Hein? Et qui voudrait savoir ce qui va arriver à Jean? Que t'importe, toi, suis-moi. Qu'est-ce qui va arriver à l'autre? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Quoi, alors, lui, il irait plus long que moi? Il vivrait plus longtemps que moi? Mais oui, que t'importe, toi, suis-moi. Et si moi, je veux que tu sois martyr, eh bien, tu seras martyr. Alléluia. Il me donnera la force. Ce qui compte, c'est qu'on le suive. Que t'importe, toi et moi. Ne vous préoccupez pas tellement des autres. Préoccupez-vous d'être dans la ligne du Seigneur. Et alors, maintenant les chapitres que je voudrais que vous méditiez avec les quatre opérations, psaume 103 par exemple. Vous ferez des additions. Prenez une feuille de papier et puis faites votre addition. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Essayez de compter les bienfaits du Seigneur. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alors soustrayez toutes vos iniquités. Soustraction. Puis continuez. Qui te couronne de bonté. Multipliez. Cherchez à voir toutes les bontés du Seigneur. Puis vous ferez aussi la division comme le ciel est
élevé au-dessus de la terre. Puis maintenant, prenez Ésaïe 53, par exemple, hein, et puis appliquez les quatre règles. Puis vous pouvez continuer, mais prenez par exemple le sermon sur la montagne et additionnez ce que vous devez faire et additionnez aussi ce que vous ne devez pas faire, ne pas juger. Alors, vous soustrayez ces choses. Puis prenez aussi Jean 13 à 16, les entretiens de la chambre haute, ce que vous pouvez additionner, ce que vous pouvez soustraire. Prenez Jean 17, faites l'addition. Combien de fois le Seigneur nous identifie à lui, les sept identifications. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Puis j'ai parlé de Romains 13, oui. Mais maintenant, c'est 1 Corinthiens, quel chapitre? On l'a lu, chapitre 13. Hein? Et alors là, eh bien, faites l'addition de ce qu'est l'amour. Il y a 7 choses que vous pourrez additionner. Il use de bonté, il use de patience, il use de bonté. Il se réjouit avec la vérité, il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. 7 choses, hein, la perfection. Mais faites aussi l'addition de ce qu'il ne fait pas. L'amour n'est pas envieux, alors soustrayez ça de votre vie. L'amour ne se vante pas, deuxième chose. Il ne sent pas d'orgueil, troisième chose. Il n'agit pas avec inconvenance, quatrième chose. 5, il ne cherche pas son propre intérêt. 6, il ne s'irrite pas. 7, il n'impute pas le mal. 8, il ne se réjouit pas de l'injustice. 9, il ne périt jamais. Il y a 9 choses que l'amour ne fait pas. Puis alors prenez maintenant Galates, chapitre combien ? 5, hein ? Voyez ce que les œuvres de la chair, ce qu'elles sont. Soustrayez tout cela. Ce qui ne doit pas être en vous. Les querelles, les divisions, tout cela. Et puis, voyez maintenant le fruit de l'esprit. L'ensemble de toutes les grâces, combien il y en a ? 9 qui forment le fruit de l'esprit. Et alors, bien oui, c'est ça le vrai problème de l'heure, c'est cet amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais l'amour qui s'exprime dans la joie, qui s'exprime dans la paix, la patience, la bonté, et la maîtrise de soi, enfin. Puis prenez aussi Éphésiens, en particulier Éphésiens 6. Combien est-ce que vous avez d'armes à porter ? Dans Éphésiens 6, vous allez faire vos mathématiques. C'est un peu des mathématiques spéciales. Éphésiens 6, il y a 5 armes défensives, puis il y en a 2 offensives. L'armure complète de Dieu, c'est 7 armes. Toujours une plénitude. Puis vous pourrez continuer, prenez le chapitre 11 des Hébreux, puis appliquez aussi ces règles. Et comme on le disait, au sujet peut-être de division, eh bien voyez comment le Seigneur savait diviser et envoyer, par exemple, 2 à 2. Il faisait une division dans ses disciples, puis il les envoyait pour que cette division ne soit pas une séparation, mais un travail en vue d'un plus grand rassemblement. Alors comprenons le bien, l'esprit ne divise jamais. dans le sens d'une division entre frères. L'esprit unit. L'esprit nous sépare du mal et du monde, mais ne sépare pas de nos frères. Ce qui nous sépare de nos frères, c'est l'œuvre de la chair. Les divisions sont les œuvres de la chair. Mais alors, quand il est parlé de division, si on applique la règle de division, on voit comment, par exemple, dans une grande foule, eh bien, le Seigneur divisait en rangées de 50 et de 100, comme je vous l'ai dit. Et alors, multiplier, ben, c'est le dernier mot, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient multipliées. Qu'est-ce qui disait ça? Les apôtres, quand ils écrivaient leurs lettres. Ils voulaient des multiplications. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, et que vraiment, nous puissions retrouver ce plein amour dans cette heure si cruciale, et qu'ayant redécouvert cet amour, nous vivions en Dieu, et que tu nous bénisses et que tu nous prépares pour l'heure de ce culte où tu veux encore nous parler du vrai problème de l'heure et de notre décision pour toi. Amen. Mes bien-aimés, pour introduire ce culte d'adoration, je vous invite à suivre dans vos Bibles la lecture de quelques versets. Dans le psaume 43, nous lisons ces paroles écrites par les fils de Corée. Verset 3e. Envoie ta lumière et ta fidélité, où l'on peut aussi traduire ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Puis, toujours des fils de Corée, au psaume 45. Au chef des chantres, sur les listes, des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, feu ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, des instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Et c'est particulièrement ce verset 11 qui arrêtera notre attention. Écoute, ma fille. Vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, adore-le. Je cite la version la plus littérale. Rends-lui des hommages. Et en vérité, adore-le. C'est notre dernier moment où nous parlons de ce vrai problème de l'heure, de cette question qui était à résoudre, de cette solution que nous avions à trouver, de ce résultat qu'il nous fallait obtenir. Et nous avons compris que pour nous tous, la grande question, c'était que les uns et les autres, en cette heure solennelle, nous soyons complètement renouvelés dans notre amour pour celui qui nous a aimés le premier. Et en étant renouvelés dans cet amour, qu'est-ce qui se produira en nous? Nous commencerons à lui ressembler. Et pour lui ressembler, il est vraiment question pour nous, comme nous l'avons rappelé, de le contempler. D'avoir réellement la personne de Jésus et de Jésus seul devant nos yeux. À quelque dénomination que nous appartenions, quelle que soit l'Église de notre naissance, Jésus Et Jésus seul doit être devant nos yeux. Il n'y a qu'un seul Seigneur, dont le nom est Jésus, le Sauveur. Comme le disait l'ange à Marie, qui acceptait d'être le vase dans lequel le corps du Seigneur serait formé. En contemplant Jésus, nous dit l'apôtre Paul, non pas nous nous transformons péniblement à son image, mais nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Par quelle puissance? Par l'Esprit du Seigneur. Cet Esprit qui n'est pas contristé, cet Esprit qui n'est pas éteint et qui doit se manifester en toute liberté dans nos vies et dans nos assemblées, dans nos communautés. Et quand nous contemplons le Seigneur Jésus, oui, nous commençons à lui ressembler. Parce que pour le contempler, il faut d'abord l'avoir reçu dans notre cœur. Il faut être ouvert à lui. Et descendre là où il se trouve, au fond de notre cœur. Et c'est ce qui nous donnera une vie intérieure qui manque tellement à une multitude de gens qui parlent de Jésus ou qui veulent apporter Jésus à d'autres. Ils n'ont pas vraiment une vie intérieure, mais ils se dépensent dans une vie tout extérieure et ils font une foule d'efforts pour faire connaître le Seigneur. Mais ils n'ont pas de vie intérieure réelle. Or, notre vie extérieure ne devrait être que le reflet de notre vie intérieure. Jésus veut être la vie de notre âme, notre vie intérieure. Et quand Jésus est réellement notre vie intérieure, eh bien, il y a une louange qui vient sur nos lèvres. Et nous arrivons à cette adoration qui est simplement un débordement de nos cœurs, que le Seigneur remplit de nos cœurs, que le Seigneur habite, de nos cœurs en qui bat son cœur, qui ne battait que pour le Père. Et à notre tour, notre cœur ne battra que pour le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Dieu des prophètes qui ont aimé le Seigneur et qui ont préparé sa venue, qui ont annoncé sa première venue et même qui ont annoncé son retour en gloire. Et je vous demande de reprendre les paroles de ce psaume 45 qui est des fils de Corée, et que dans l'heure qui va venir, nous puissions vraiment entendre jaillir de vos lèvres, non pas des vaines redites, non pas des choses qui informeraient Dieu au sujet de ce qu'est son Fils. Il n'a pas besoin qu'on l'informe de ce qu'est son Fils. Mais ce que Dieu voudrait entendre de vous, c'est ce que son Fils est pour vous. Ce que Dieu voudrait entendre de vous dans ce culte, c'est que vous êtes disponible pour lui. C'est ça le vrai culte. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mon corps, le voici. Mes membres sont à ta disposition. Mes yeux, tu peux les prendre pour voir comme tu vois, pour entendre comme je dois aussi entendre. Ma langue, elle est pour toi, pour que je puisse prononcer les paroles pleines de grâce et de vérité. Mon œuvre, elle n'est pas pour moi. Elle est pour toi. Entièrement pour toi. Totalement pour toi. Ce n'est pas pour moi que je travaille. Et ce n'est pas moi-même qui travaille. C'est toi qui travailles avec moi. Je m'oublie complètement. C'est cela l'adoration, c'est s'oublier, ce n'est plus parler de soi toujours. C'est parler de ce qu'il est lui, de ce que nous avons découvert en lui dans les jours passés. Quelques-unes de ces beautés qui tout à coup nous émerveillent et nous portent à l'extase. Pourquoi n'auriez-vous pas un jour l'extase, parce que vous êtes dans le silence, parce que vous avez fait taire tous les bruits de la terre, parce que vous ne désirez plus que lui, parce que votre cœur est brûlant d'un amour nouveau pour celui qui vous a tellement aimé et qui bouleverse complètement votre âme. Oh, mes bien-aimés, il est possible qu'au cours de cette retraite, vous ayez été atteint par une flèche. Oh, je le demande que ce soit une flèche de grâce. Saul de Tarse, lui aussi a été atteint par une flèche, flèche de la grâce de Dieu. Cette flèche, polie, qu'est le Seigneur lui-même, qui ne veut pas rester extérieur à notre vie, mais qui veut entrer jusqu'au plus profond de nous-mêmes, nous apporter cette blessure d'amour, une blessure d'amour. Une blessure qui ne se guérit pas en quelque sorte et qui faisait dire à la bien-aimée du Cantique des Cantiques, je suis malade d'amour, malade d'amour pour toi, Seigneur. Plus rien d'autre ne m'occupe, ne me préoccupe. Et nous repassons dans nos cœurs tout ce qu'il aime, la justice, la douceur, la vérité. Ce sont là les choses qui nous préoccupent quand nous sommes autour de sa table. Nous revivons cette dernière scène, ce dernier souper, et nous voyons Jésus à la fin. fin de son ministère terrestre, celui qui était né dans l'étable d'un autre et qui célèbre son dernier repas dans la chambre d'un autre, après avoir prêché en empruntant la barque d'un autre, alors que quelques heures plus tard, après avoir subi la croix d'un autre, cette croix de Barabbas, le brigand, c'est lui qui va la subir, et finalement, son corps sera encore couché dans le sépulcre d'un autre, lui qui, pour entrer à Jérusalem, avait dû emprunter l'anneau d'un autre, parce qu'il n'avait rien. Lui qui était riche, lui le Créateur, il n'avait rien sur la terre. Tout lui était prêté. Alors que nous, nous voulons posséder, toujours posséder, toujours avoir. Eh bien, frères et sœurs, maintenant, nous allons tout oublier pour entrer dans la vraie adoration. Et j'arrive à ce verset 11, sachant que vous-même, vous méditerez sur ce merveilleux cantique d'amour. Écoute, ma fille, et cela, c'est le Seigneur qui s'adresse à votre âme. À votre âme qu'il a rachetée, à votre âme qui lui appartient maintenant. Fille de Dieu, fille de ce Père céleste, votre âme devenant la bien-aimée du Seigneur. Écoute, ma fille. Mais pour écouter, il faut avoir des oreilles. Vois, et pour voir, il faut avoir des yeux. Oublie ton peuple. Voyez-vous, nous avons des traditions, nous avons reçu toute une éducation, peut-être même religieuse, il y a peut-être longtemps, ou il y a peu de temps, et nous sommes déjà déformés. Écoute, ma fille, vois, prête l'oreille. Oublie ton peuple. Tu te réclames d'un certain peuple. Oublie la maison de ton père. Tu te réclames d'une tradition familiale peut-être, d'une tradition ecclésiale ancienne ou nouvelle, parce que tous, nous avons des traditions. Eh bien, frères et sœurs, et je demande pour moi que nous puissions aujourd'hui, oubliez toutes nos traditions, tout ce que nous avons pu apprendre et qui n'est pas vraiment de la parole. Oublie ton peuple, la maison de ton père. Et alors, qu'est-ce qui se produira? Le roi désirera quoi? Ta beauté. Le roi désire ta beauté. Le Seigneur veut que votre âme soit belle. Le Seigneur veut que vous ayez sa beauté, que vous soyez revêtus de sa beauté. Et quand on s'aime vraiment, on commence à se ressembler. Eh bien, que vous puissiez être conscient que le Seigneur désire votre beauté. Mais vous direz, mais moi je n'ai pas de beauté. Mais il met, quand vous le regardez, il met sa beauté sur vous. Et il vient se voir en sa beauté. La beauté qu'il voit en nous, qu'il voit en vous, c'est la sienne. Comprenez-le. C'est sa beauté qu'il voit en nous. Il désire voir ta beauté. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. quand il voit dans une âme sa douceur, quand il voit dans une âme sa vérité, quand il voit dans une âme sa justice, quand il voit dans une âme sa fidélité. Le cœur du Père est réjoui, et le cœur du Fils qui pourra un jour présenter à son Père ses enfants en lui disant « Me voici, moi, et les enfants que tu m'as donnés, Père, ton dessein éternel, ce que tu voulais, ce n'est pas d'avoir seulement un fils, tu voulais des fils qui soient comme moi. Eh bien, je ne suis pas jaloux, ils sont là. Et tu peux, en les regardant, admirer ma beauté en eux. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose de merveilleux. Entrez cet après-midi dans ces palais d'ivoire et alors vous serez réjouis. Mais il faut une décision et c'est avec cette décision que je terminerai ce thème. Quelle décision ? Je vous en citerai simplement sept comme pistes de réflexion. La première âme dont nous lisons l'existence dans le livre de la Genèse et qui s'est décidée à oublier son peuple. Et la maison de son père, c'est qui ? C'est Rebecca. C'est Rebecca. Rebecca a été demandée par Eliezer. Vous connaissez toute l'histoire. Je ne vais pas vous faire l'école du dimanche, mais je vous rappelle ces choses. Abraham avait demandé à son serviteur d'aller chercher une femme pour Isaac. Et ce serviteur a obéi. Et il a pris Dieu au sérieux, le Dieu de son maître, Abraham. Il s'est mis en prière et il a demandé avec des mots précis un signe du Seigneur pour qu'il soit sûr qu'il n'allait pas se tromper. Et voilà, qu'il n'avait pas encore achevé sa prière, que déjà Rebecca s'approchait. Et vous connaissez le récit. Vous connaissez ce qui s'est passé dans la maison de Bethuel, le père de Rebecca, dans la maison de Laban, son frère. Rebecca est sollicitée pour devenir la femme d'Isaac. Et le frère et la mère demandent à la jeune fille qui a dit son fiat, qui a dit son oui, de rester encore au moins quelques jours, une dizaine de jours avec eux, dans la maison de leur père, puis après, il partira. Et Eliezer, qui est une image, un type de l'Esprit des dieux, répond, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, la famille répond, eh bien, appelons la jeune fille et consultons-la. Et ils appelèrent donc Rebecca. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Veux-tu aller avec cet homme ? Et qu'est-ce qu'elle répond ? J'irai. Elle est décidée. J'irai. Elle est convaincue. On n'a pas insisté.
elle est libre. Elle pouvait dire non. Comme Marie aurait pu dire non. Elle a dit oui. Le fiat de Rebecca, viré. Il est question d'une décision. Et c'est une jeune fille qui n'a pas vu son fiancé. Figurez-vous ça. Vous dites un oui quand vous ne l'avez pas vu. Eh bien oui, quoique ne l'ayant pas vu. Nous l'aimons et nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Le Saint-Esprit ne peut pas nous tromper. Lui qui nous a convaincus que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Rebecca part sans avoir vu Isaac, mais le long du chemin, Eliezer lui parle de ce bien-aimé qu'elle va rencontrer au temps du soir. J'irai, une décision d'une jeune fille. Est-ce que votre âme est décidée aujourd'hui pour Jésus-Christ? Mais il y a parmi nous pas seulement des jeunes filles ou des jeunes hommes. Il y a aussi des gens plus âgés et qui ont peut-être tout un passé. Des gens semblables au père Jacob. Jacob, lui, est un homme qui a eu une vie bien mouvementée. Il a été très retors dans sa vie. Et il devra dire à la fin de sa course à son fils Joseph qu'il a retrouvé le Dieu devant lequel mes pères ont marché, Abraham et Isaac, celui qui a été mon berger. Il ne dit pas qu'il a marché, lui, d'une façon droite. Mais il confesse que Dieu a toujours dû le ramener dans le chemin. Le Dieu qui a été mon berger. Mais il peut parler que ses pères ont marché devant Dieu. Eh bien, ce Jacob, qui a trompé et qui a été trompé, et qui a connu une vie de douleur. Il a perdu sa femme en voyage, la femme qu'il aimait, Rachel. Et non seulement cela, mais son fils Joseph, qui lui rappelait Rachel, son fils obéissant, son fils qui lui faisait plaisir, à 17 ans, il l'a envoyé pour demander des nouvelles de ses frères. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Joseph? Les fils de Jacob sont venus le trouver avec la tunique sanglante et ont dit à leur père, nous avons trouvé cela au désert, bande de menteurs. Fils de Jacob, menteur, une bête l'a déchiré et le pauvre Jacob pleure. Et 20 années passent. Mais un jour, à cause de cette fameuse famine, les fils de Jacob ont dû aller en Égypte. Ils ont rencontré Joseph, qui après avoir passé par toute espèce d'épreuve, est le gouverneur de l'Égypte. Et quand Joseph s'est finalement fait connaître à ses frères, et leur a totalement pardonné, est-ce que nous avons ce pardon de Joseph? Après leur avoir totalement pardonné, il les renvoie dans le pays pour dire à Jacob de descendre. Et il envoie des chars du Pharaon pour descendre son vieux père. Et vous connaissez le récit que va faire Jacob. Je lis dans Genèse 45, les fils remontèrent de l'Égypte. Et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père, verset 25. Et ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Est-ce qu'il y a des cœurs ici qui sont restés froids?
et qui sont encore froids en cette heure qui précède la fin de cette retraite. Jacob ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Est-ce que notre esprit, en ce moment, va se ranimer pour que nous puissions entrer dans une véritable adoration? Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. Et qu'est-ce qu'il dit? J'irai. Oh, que c'est beau. Que j'aime ce petit mot. J'irai. Comme Rebecca, la jeune fille, qui fait confiance au Saint-Esprit, qui sait que le Seigneur dirige toutes choses. Pourquoi, jeunes gens, jeunes filles, ne dépendez-vous pas du Saint-Esprit? Vous voulez choisir vous-même votre conjoint, vous voulez le voir, vous voulez même l'essayer pour être sûr. Vous n'avez plus rien à faire avec le Dieu vivant. On n'essaye pas. On fait confiance à Dieu qui lui sait si cette personne pourra me correspondre. Pas seulement aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Car le mariage, ce n'est pas quelque chose qui se fait à l'essai. On est en Dieu, on est avec Dieu, et c'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui peut nous mettre avec l'aide qui réellement pourra nous correspondre. C'est cela que nous devons retrouver, le problème de l'heure, c'est revenir au Seigneur, c'est revenir à l'action directe du Saint-Esprit. C'est pas lire tous ces bouquins que vous lisez sur le mariage et qui empoisonnent votre vie conjugale parce que vous avez trop lu de choses sur la vie sexuelle, parce que vous avez trop lu de choses pour savoir comment on peut avoir l'harmonie avec l'autre. Et c'est cela qui vous a empoisonné au lieu de lire ce livre où il n'y a pas de tabou, mais où tout est sacré. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur veut nous dire, même si c'est la dernière fois que je vous parle. C'est cela que vous devez comprendre. Oh, le j'irai de Jacob. J'irai, c'est un vieillard, mais un vieillard qui sait se décider. Et pourtant, lui aussi, quitter le pays de Canaan, c'est oublier son peuple, c'est oublier la maison de son père, pour s'en aller où? En Égypte. Et vous savez, quand c'est le j'irai de l'esprit qui a retenti dans nos cœurs, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a pris la décision de partir, j'irai, je le verrai avant que je meure, Israël partit. Et puis, verset 2 du chapitre suivant, Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et lui dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Vous ne trouvez pas que c'est beau? De telles visitations, quand on a pu prendre une décision en la foi, Dieu vient ensuite nous la confirmer. Il n'y a pas d'abord la confirmation de Dieu. Il y a d'abord la décision de l'Esprit dans notre cœur. Et quand c'est vraiment de l'esprit, il y a confirmation de Dieu. C'est le deuxième juré. Et maintenant, le troisième juré, vous l'avez découvert, c'est le juré d'une petite étrangère, une Moabite, qui est en deuil de son beau-père, de son beau-frère, et pire, de son propre mari. Une veuve qui s'appelle Ruth. Et la pauvre Naomi essaye de convaincre ses belles-filles de retourner vers leur peuple et vers leur Dieu, car elles n'ont aucun avenir en Israël, parce que Naomi connaît la parole. Elle n'a pas obéi à la parole. Elle est partie à Moab à cause des circonstances. Elle a mis ses fils dans une situation épouvantable. C'est les parents souvent qui mettent les enfants dans une situation tragique. Croyez-vous que le Seigneur n'aurait pas pu prendre soin d'elle à Bethléem, puisque quand elle y est retournée, les gens vivaient encore. Ils n'étaient pas morts. Ils l'ont reconnue. Mais elle, à cause du pain, parce que ses enfants étaient faibles de santé, avec Élimélec, son mari, qui n'a pas été vraiment un vrai homme, eh bien, ils sont partis, et puis, ils ont eu les conséquences de leur départ. Les fils se sont mariés avec des étrangères, les fils sont morts, puis maintenant, Naomi se sent solitaire, elle qui s'appelait Médélis, elle se sent amère. Et vous savez, on a senti aussi qu'il y avait dans certains cœurs de l'amertume. Ben, il ne doit pas y en avoir quand on va adorer le Seigneur. Est-ce que vous avez encore de l'amertume dans votre cœur? Est-ce que vous êtes une Mara au lieu d'être les délices du Seigneur? Mara. Et voilà que une de ses belles filles retourne vers son peuple et vers ses dieux. Mais Ruth, tout en n'ayant aucun espoir d'être reçu dans le peuple, dans la congrégation d'Israël, n'ayant aucun espoir d'avoir un permis de travail, eh bien, elle s'est attachée à sa belle-mère. Et que lui dit-elle? Elle lui dit, ne m'empêche pas de te suivre. Je lis le texte. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, verset 16, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple. Oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi désirera ta beauté. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Ô mes bien-aimés, voilà une femme qui sait prendre une décision lors même que la parole de Moïse a bien prescrit et d'ordre divin qu'aucune Moabite n'entrerait dans la congrégation d'Israël. Mais Dieu est Dieu, et il est au-dessus de sa parole. C'est cela qui est formidable. Comme Jésus le disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Et c'est pourquoi Jésus était vraiment le Seigneur du sabbat. Et justement, on l'accusait de transgresser la loi. Nous ne sommes pas des littéralistes. Et nous ne venons pas avec une Bible parce que nous sommes littéralistes. Nous savons que Dieu est au-dessus. Nous n'adorons pas un livre. Nous adorons l'auteur du livre, qui est au-dessus de tout. Et qui est un Dieu de grâce. Et qui, voyant le cœur de Ruth, lui a trouvé non seulement du travail, mais un mari qui sera qui? Pas n'importe qui. Un prince d'Israël, Boaz, qui lui-même est le fils de qui? De Salmon? Mais sa femme. Rahab, qui était qui? Une prostituée, une cananéenne, qui elle non plus ne devait pas entrer dans le pays d'Israël, dans le peuple d'Israël. Eh bien, Dieu qui avait dit qu'aucun cananéen entrerait, il a fait grâce pour qui? Pour Rahab. Pour quelle raison? Parce que Rahab, toute prostituée qu'elle était, elle avait la crainte de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Les retournements divins. Et cela, ça ne nous pousserait pas à l'adoration? Et cela ne nous pousserait pas à croire que Dieu peut faire encore des choses merveilleuses dans d'autres cœurs que ceux que nous côtoyons? Souvenez-vous de cela et vous deviendrez des adorateurs. Vous ne discuterez plus, mais vous vous prosternerez. Alors, comme les fils de Corée, vous pourrez dire, envoie ta lumière et ta vérité afin qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Les fils de Corée. Mais qui étaient-ils ces fils de Corée? Les fils du grand rebelle, de celui qui avait mené une rébellion contre Moïse avec Dathan et Abiram. Et ces gens qui s'étaient révoltés contre Moïse, qu'est-ce qui devait les attendre? Ils devaient tous périr d'une manière extraordinaire. La terre devait s'ouvrir et ils allaient tous être engloutis. Mais voilà, les fils de Corée ont oublié leur père, ont oublié leur peuple. Alors que les enfants d'Abiram et de Dathan se sont réunis avec leur père autour de leur tente, ils n'ont pas voulu quitter leur père. Eh bien, les fils de Corée, parce que Dieu donne toujours un jour de grâce, Moïse avait dit, demain, vous verrez qui a choisi. Et ils ont eu une journée pour se séparer de leur père et quitter les environs de la tente de leur père. Et c'est ainsi qu'ils ont été sauvés. Nous l'apprenons. Alors qu'ils devaient mourir, alors qu'ils devaient périr à cause du péché de leur père, le Seigneur les a sauvés. Et ils sont devenus des psalmistes. J'aime beaucoup ce verset des Nombres où il est dit, « Et les fils de Corée ne périrent point. » Parce que Dieu, justement, le juge est un Dieu de grâce. Et il fait grâce. Et si nous sommes réunis ici, c'est uniquement par grâce. Alors, comme eux, nous disons, oui, j'irai. Et c'est ces fils de Corée qui ont écrit ce merveilleux psaume 84. Combien sont aimables tes demeures, ô éternel des armées. Ils ont quitté la demeure de leur père. Ils ont quitté les traditions de leur père, les idées de leur père, pour suivre l'ordre du Seigneur. Et c'est ainsi qu'ils ont eu la vie sauve. Et vous continuerez, et vous trouverez dans le Nouveau Testament le « J'irai du Seigneur ». Dans Matthieu 8, verset 7, il répond à l'officier de Capernaum qui vient lui demander de venir guérir son serviteur couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Chapitre 8 de Matthieu, verset 6. Jésus répond à ce païen, j'irai et je le guérirai. N'est-ce pas merveilleux? La disponibilité du Seigneur, même pour un païen, j'irai et je le guérirai. Mais le centenier répondit, Seigneur, Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de la table du Seigneur. Si vous attendez d'en être digne, vous ne vous approcherez jamais. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Mais qui est-ce qui disait cela? Un païen, ce qu'on appelle des païens. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. On a un Jésus qui s'étonne, mais nous ne savons plus nous étonner. Nous savons seulement porter des jugements. Bien que le Seigneur nous pardonne nos jugements, notre amertume, et que nous puissions participer à l'étonnement de Jésus, qui disait à ceux qu'il suivait, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi et à l'heure même. » Le serviteur fut guéri. Prosternons-nous et lisez vous-même dans Romains, chapitre 15, le juré de l'apôtre Paul, qui a vraiment le désir d'aller prêcher à Rome, d'aller évangéliser les chrétiens de Rome. On dit, comment tu vas évangéliser les chrétiens de Rome? Ils sont déjà évangélisés. Ils n'ont plus besoin d'être évangélisés. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? C'est tout le conseil de Dieu. Et Paul a à cœur d'aller leur apporter l'évangile, parce que l'évangile, ce n'est pas un petit salut. C'est tout le conseil de Dieu, c'est la grande nouvelle, c'est la bonne nouvelle que nous devons saisir toujours mieux. Alors, Paul nous dit dans quel esprit il ira à Rome au verset 29 du chapitre 15e des Romains, quand il pense à cette décision, quand il ira à Rome, il dit au verset 29, « Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » C'est beau, hein? Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans le doute, nous? Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas penser que vous pouvez aller, vous aussi, quand le Seigneur vous appelle, dans la pleine bénédiction du Christ? J'irai. Je dois me le dire souvent à moi-même, parce que je suis un douteur comme les autres. Mais je veux que cette parole me convainque. Et je puis le dire d'une façon particulière à la fin de cette retraite. Je suis venu en tremblant. Eh bien, je veux comprendre de plus en plus que si le Seigneur veut que j'aille à droite ou à gauche, c'est qu'il veut aussi que je puisse aller dans la certitude de la pleine bénédiction du Christ. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, qu'il n'y aura pas des larmes, qu'il n'y aura pas des souffrances, qu'il n'y aura pas des combats. Et si même je ne suis pas sûr de pouvoir faire une chose, si je suis peut-être prisonnier, comme Paul l'était à Rome, si même j'espère être libéré de ma prison pour pouvoir exercer encore un ministère, en attendant, je peux peut-être envoyer un enfant spirituel, un enfant dans la foi, Philippiens 2, verset 23. J'espère vous envoyer bientôt Timothée, verset 23. J'espère vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Je dois vraiment comprendre dans quel état je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même, j'irai bientôt. J'irai bientôt. C'est le septième j'irai. eh bien, que cette méditation de la parole puisse nous avoir préparés à ce repas du Seigneur et que maintenant la liberté de l'esprit soit réellement au milieu de nous et que ce soit pour nous comme une préparation. Si vous avez à cœur un cantique, si vous avez à cœur une parole à partager, une action de grâce, soyez libre, soyez décidé pour votre Seigneur et votre Sauveur. Il est ton Seigneur, adore-le. Amen.